FPP 106.3, 20h30, Zoom Écologie et son équipe des radioactifs et des radioactives. Bonsoir, ce soir on parle du barrage de Sivens dans le Tarn, où un grand rassemblement aura lieu le samedi 25 octobre. Et je commence par vous lire l'appel à mobilisation. De cette année, la vallée du Tescou, dans le Tarn, aiguise l'appétit des services d'aménagement du territoire, chargés d'adapter la nature aux exigences infinies de la croissance. Ici, il ne s'agit pas d'implanter un aéroport ou une ligne de TGV, mais un barrage, principalement destiné à l'irrigation du maïs. Ainsi, une poignée d'exploitants agricoles s'enfoncera davantage dans l'impasse d'une maïsiculture polluante, gaspilleuse d'eau et massivement subventionnée. Comme dans tous les grands projets, l'objectif est aussi de produire artificiellement, grâce à de l'argent public, de l'activité économique, et les profits privés et les conflits d'intérêts qui vont avec. Face à ce projet de barrage au lieu-dit du Testet dans la forêt de Sivens, un premier collectif regroupant des associations de défense de l'environnement se forme en 2011. Il dénonce la perte de la biodiversité par la destruction de la remarquable zone humide du Testet et dépose des recours en justice. Sans attendre les jugements sur le fond, la préfecture autorise le début du chantier en octobre 2013. Des militants regroupés au sein d'un second collectif décident alors d'occuper le site. Ils retardent le début des travaux de près d'un an. Malgré leur détermination, le chantier commence le 1er septembre 2014 par le déboisement d'une trentaine d'hectares effectués sous haute protection militaire. Plutôt que de répondre aux demandes répétées d'expertise indépendante et de dialogue portées par les collectifs d'opposants, les décideurs passent en force, ce qui donne lieu à de nombreuses violences policières. Mais la lutte contre le barrage de Sivens continue. Ils ont abattu la forêt, enracinant la résistance.
Zoom Écologie, tous les jeudis soirs, de 20h30 à 21h30. Sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3.
Eh bien bonsoir Dominique, Agnès et Alain. On va donc parler ce soir du projet de barrage de Sivens dans la zone humide du Testet dans le Tarn. Donc là on est pour l'instant en Ariège, mais vous revenez il y a quelques temps du Testet et vous vous apprêtez bientôt à y retourner. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu pourquoi ?
Il était normal que le comité ariégeois contre le projet Notre-Dame-des-Landes, les GPI, s'intéresse au barrage de Sivens. Et qui rentre dans une même logique, que, même si les dimensions sont plutôt hautes, que le projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes.
Moi, personnellement, je voyais régulièrement passer des informations sur ce qui se passait là-bas, avec par moments des alertes, mais je n'avais pas vraiment pris conscience de ce qui se passait sur le Testet. Nous, on a été très sensibilisés par rapport à ce qui se passait à Notre-Dame-des-Landes. Et quand on a eu cette alerte et qu'on a su vraiment ce qui se passait par rapport à la violence policière, par rapport à la répression, en fait, moi, c'est ce qui m'a fait bouger au départ. Et après, effectivement, je suis rentrée un petit peu plus dans cette histoire pour comprendre l'opposition et la non-opposition. Et donc maintenant, on est fermement opposé au projet et avec le comité 09, effectivement, on se mobilise pour augmenter la mobilisation sur l'Ariège. Puisque nous, il faut qu'on fasse ce travail-là, quoi, parce qu'on n'est pas sur place et c'est au moins faisons ça, quoi.
Moi, c'est pas tant en tant que comité Notre-Dame-des-Landes que j'ai été sensibilisé à ça, c'est plutôt sur l'ensemble des problèmes qui sont soulevés par ce type de projet, hein, à la fois politique, démocratie, atteinte à la démocratie. C'est effectivement le côté environnemental, mais pas que. Il y a aussi tout ce qui est collusion et conflit d'intérêts, il y a la violence policière, enfin, je veux dire, on est au carrefour de plein de raisons pour que, quels que soient nos investissements militants locaux, on se trouve concerné par ce projet-là et par la lutte contre ce projet. Je pense que ça touche énormément de domaines et que tous ces domaines-là peuvent faire venir dans cette lutte des personnes qui ne travaillent pas ensemble d'habitude parce qu'on est tous un peu spécialisés, alors que là il y a vraiment une synthèse d'énormément de choses qui méritent de se mobiliser. Et évidemment, quand on y va, comme c'est le cas. Tout ça nous saute aux yeux, il y a une réalité de terrain, il y a un endroit qui était magnifique, hein, je dis qui était puisqu'il a déjà été bien abîmé, puisque toute la forêt a été coupée. Et là, on tombe aussi dans des réactions émotives et émotionnelles de voir la violence, hormis la violence policière, mais la violence de l'acte qui est posé, alors qu'il y avait, qu'il y a des recours en route et qu'il il était urgent d'attendre.
D'accord. Alors, vous avez évoqué divers éléments, à la fois les questions environnementales. Alors, on va aussi revenir sur la dimension agricole, parce que c'est quand même un projet de barrage donc, pour l'irrigation. Donc, il y a tous ces éléments aussi de conflit d'intérêts, comme tu as dit. Donc voilà, on va un petit peu prendre point par point de quoi il relève. Donc peut-être on va commencer par l'histoire de ce projet, d'où ça vient, qui c'est qui le porte, et comment est-ce qu'il a évolué depuis quelques années.
L'histoire du projet, je crois qu'il date, c'est sorti en 2003. Et bizarrement, à fur et à mesure que ça avançait, vu qu'il y avait des avis... dans l'agence de l'eau, enfin c'est pour plus moi, la protection de l'environnement, etc. Comme il y avait des avis négatifs qui ont été donnés, à chaque fois ils changeaient l'objectif du barrage. Et c'est vraiment depuis 2011 que c'est reparti. Et c'est la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne qui a fait l'expertise et c'est lui qui construit, avec le conseil général du temps, mais c'est une société d'économie mixte où il y a du privé et des élus locaux.
C'est une demande en fait des agriculteurs auprès du Conseil général par le fait que
De quels agriculteurs?
Alors les agriculteurs de comment on appelle ça, de la Dour en fait, de cette région manquent d'eau parce qu'il y a effectivement une augmentation des demandes par les orientations agricoles. Il y a une demande quand même de la part des agriculteurs d'avoir de l'eau. Et comme c'est le principe de faire des barrages ou des retenues collinaires, c'est venu tout naturellement. Et il y a un schéma qui se met en place, je ne sais plus, tous les 5 ans. Donc ça a été mis dedans. Et le Conseil général a répondu à cette demande. Mais c'est aussi, ça lui permet aussi, lui, de monter des projets et de faire des appels d'offres et de faire rentrer aussi de l'argent de l'État sur des projets comme ça. Quoi.
D'accord, parce que c'est quoi les financements du coup du projet?
50% c'est le fonds européen, 30% c'est le département, et les 20% restants c'est l'État. Mais à l'heure actuelle, il n'est pas certain qu'ils obtiennent les 50% du fonds européen.
Donc il est clair que c'est un projet semi-privé ou semi-public, ça dépend si on, par quel côté on regarde, qui est financé à 100% par des fonds publics. Donc il y a là déjà un vrai problème d'usage des fonds publics, hein. C'est qu'on va financer une structure mixte totalement sur fonds publics. Les coteaux de Gascogne ne mettent pas un centime et vont être les exploitants et c'est eux qui vont sortir des fonds. Et on retouche à une constante actuellement, c'est mutualisation des investissements et des frais et des pertes et privatisation des profits. Donc on retombe sur un schéma actuellement très libéral qui consiste à faire payer les choses. On l'a vu sur énormément de projets, on a vu ce qui est arrivé avec les autoroutes. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment des visions globales qu'on peut avoir sur ce projet. C'est-à-dire on finance sur les fonds publics et les bénéfices sont partagés dans les fonds privés. Mmh. Ça c'est vraiment une chose sur laquelle on ne peut plus accepter aujourd'hui du fait des difficultés financières qui nous sont proposées.
Oui. Et pour revenir par rapport au coût, il faut savoir qu'en fait, il y a 25 exploitants agricoles qui seraient concernés par cette retenue d'eau, pour irriguer du maïs, grain ou semences. Et du coup, ça fait un coût par exploitation de 190 000 euros et quelques, oui, qui sont payés par la collectivité publique.
Un coût d'investissement.
Un coût d'investissement.
Il faut ajouter le fonctionnement qui est assez énorme, qui sera annuel et qui sera également pris en compte, en charge, sur fonds publics, alors que les bénéfices seront partagés à moitié, enfin en partie, fonds publics et une partie privée, ce qui est quand même un vrai problème.
Alors tu nous as dit que c'était pour faire du maïs grain semence. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus qu'est-ce que ça représente ça?
Alors le maïs grain, c'est généralement par ici destiné à l'alimentation du bétail, mais ça pourrait être aussi pour petite boîte là. Et le maïs semon, c'est pour faire de la semence. C'est la culture enfin, la plus polluante, mais c'est aussi la plus rentable.
C'est actuellement le grand courant dans le sud-ouest, hein, c'est vraiment le maïs qui va à l'exportation en grande partie, et qui est extrêmement polluant parce qu'il demande énormément d'eau et qu'il est très traité. Et comme il est beaucoup arrosé, il y a une infiltration énorme des pesticides qui sont posés, puisque c'est un arrosage permanent quasiment, enfin, quotidien ou plusieurs fois par semaine. Donc ces pesticides s'infiltrent dans les nappes phréatiques et on voit les régions maïsiculture qui ont vraiment des gros problèmes de qualité de l'eau au niveau de l'eau alimentaire.
D'accord. Et donc là, on est un peu en quelque sorte dans une boucle parce que un des objectifs initiaux de ce barrage, c'était aussi la dilution des pollutions.
Effectivement, au moment où le projet a été monté, il y avait des problèmes sur une laiterie, un problème de pollution. Maintenant, ce n'est plus le cas, ou en beaucoup moins, parce qu'ils se sont mis aux normes. Donc l'idée est simple, hein, le Tescou, pour ceux qui y iraient, c'est tout petit, c'est un tout petit ruisseau. Et donc, les rejets qui étaient faits dans ce ruisseau, parce qu'on peut plus parler d'un ruisseau que d'une rivière, amenaient des concentrations de polluants trop importantes. Donc l'idée, c'est de faire un bassin d'étiage, où on va diluer ces polluants dans une masse d'eau beaucoup plus importante. Ça ne réduira pas la pollution, mais ça réduira le taux de concentration, donc les éventuellement dépassements de normes. Et comme le but, c'est quand même la maïsiculture, en grande partie, hein, il est clair qu'il est très probable qu'une partie des agriculteurs qui ne sont pas en maïsiculture aujourd'hui, du fait de l'attrait financier que représente la maïsiculture, vont basculer dans ce domaine-là. Donc là encore, on va rentrer dans des cycles de pollution d'un autre type, peut-être sur d'autres bassins versants, mais il y aura de toute façon une pollution induite par ce type d'agriculture qu'on connaît et sur laquelle aussi on peut vraiment poser des grandes questions sur les limites de ce type d'agriculture et quel modèle agricole va devoir se mettre en place pour les décennies à venir et les générations futures.
Parce que c'est un espèce d'emballement en fait. Là, il y a... Je disais sur un article, le maraîcher qui est concerné par la zone et qui est pour le projet, en fait, veut faire une extension de 10 hectares d'une culture beaucoup plus rentable parce que son maraîchage ne dégage pas suffisamment de marge. Donc en fait, il, du fait du barrage, il va pouvoir faire l'extension. Il n'y aurait pas eu ce barrage, il aurait trouvé d'autres méthodes, il aurait fait différemment. Quoi. Donc en fait, on est voilà, dans cette espèce d'escalade et tout se justifie finalement. Au bout d'un moment, tout se justifie. Quoi.
Et ce barrage doit remplacer une partie de forêt et une zone humide.
C'est ça, oui, il est implanté sur... Il y a 40 hectares qui ont été déforestés, hein, qui étaient au cœur de la zone humide du testé. Il y en a 20 qui sont destinés à la retenue, le reste c'est des infrastructures de barrage.
D'accord, mais alors où est-ce qu'il est le problème? Puisque finalement on va avoir un barrage, il va y avoir de l'eau.
C'est plus une zone humide, un lac de barrage ou une mare ou un étang, c'est une zone humide, on peut dire. Mais c'est pas du tout le même fonctionnement qu'une zone humide naturelle. Parce que la zone humide naturelle, elle est étendue. Et elle fonctionne sur toute l'année, elle fonctionne comme une éponge, elle récupère l'eau quand il pleut beaucoup, elle la garde, elle restitue au moment de l'étiage. Et en plus, elle filtre, voilà, il y a tout un système, elle permet l'installation d'une faune diversifiée, de plantes spécifiques, etc. Là, on va changer complètement le milieu. On va mettre une eau qui va stagner. En dessous, la zone humide, il n'y en aura plus. Donc on va faire disparaître quand même un écosystème. On va tout changer. La question se pose par rapport à ça, parce que les zones humides disparaissent en France et qu'actuellement, il y a quand même eu une loi sur l'eau qui dit qu'il faut restituer les continuités, qu'il faut protéger les zones humides de par leur... ce qu'elles apportent à l'homme, et donc on est dans une contradiction là, donc où ils vont s'arrêter, à quel moment on l'applique cette loi sur l'eau en fait finalement.
Alors là, est-ce que ça rentre dans le cadre de la loi ou pas du tout?
Ah bah non, ça rentre pas dans le cadre de la loi.
Justement, d'où ces nombreux avis défavorables donnés par des commissions indépendantes d'État pour la plupart, comme la commission du conseil scientifique, ensuite la protection de la nature, avec des négatifs toujours pour transférer des espèces protégées, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, avis négatif, etc. Elle ne respecte pas, pardon, la réglementation sur les zones humides, une réglementation particulière.
Et pourtant, on continue ce projet.
Oui, parce que c'est eux, ce qu'ils cherchent à faire, c'est que ça soit d'intérêt public. À partir du moment où c'est d'intérêt public, on peut déroger à la loi. Si l'emprise n'est pas trop forte, etc. Ça ne concerne qu'une quarantaine d'hectares. On n'est plus sur des 16 000 hectares comme à Notre-Dame-des-Landes. Donc finalement, c'est pas très grave. Sauf que c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. C'est ça le problème, en fait. Donc si elle est considérée comme d'intérêt public, il n'y a aucun souci, ça passera.
Sauf qu'il y a des recours actuellement. Des recours juridiques qui sont posés pour différents points et que loin d'attendre le résultat de ces recours qui devraient être probablement contre le projet, enfin mettre le projet en point d'arrêt ou au moins l'arrêter ou le suspendre. Loin d'attendre ces recours, il y a eu une accélération à outrance du projet et de l'exécution du projet. Et là, on rentre dans l'actualité avec vraiment une volonté de passer en force, hein, très, très nettement marquée. Et on se retrouve aujourd'hui avec la déforestation qui est faite. Tout a été arraché, coupé, broyé. Et il est clair qu'ils ont sans doute aussi l'intention d'attaquer les travaux de bétonnage très rapidement, parce qu'ils veulent passer en force avant les recours, comme ça s'est déjà fait localement en 97. Un barrage a été créé non loin de là, hein, qui a été créé alors qu'il y avait des recours. Les recours sont tombés 2 ans après et le barrage a été construit. Donc depuis 1998 existe ce barrage illégal. Il est illégal depuis ce temps-là, mais il est en fonctionnement, puisque le barrage a été créé et que l'endoiement a été fait. Donc on sent exactement le même genre de volonté de la part des porteurs de projets, c'est-à-dire le Conseil Général, d'aboutir au projet, quelles que soient les conséquences, et en se moquant totalement d'éventuels recours qui arriveraient à terme et qui rendraient le projet illégal.
Alors, c'est des recours qui ont été portés par qui et auprès de qui ?
Par le collectif du testé, oui. Qui suit...
Et les Verts aussi, il y a eu des recours
oui.
faits.
Donc, il y a un ensemble d'associations environnementales ou sur l'eau, disons qu'il s'est porté collectivement, par le collectif du testé, c'est un collectif qui regroupe pas mal d'associations, de particuliers, d'agriculteurs, de personnes sensibilisées au problème.
Donc à la fois à l'échelle locale et à l'échelle nationale, c'est ça ?
Non, c'est au niveau de la région que ça se passe, parce que c'est quand même un projet qui touche la région. C'est compris dans un schéma régional de la politique sur l'eau quand même. Et donc les Verts, le collectif du testé ont porté des recours. Il y a 2 recours qui ont été, dont on a les résultats, qui sont pour le projet, en fait, on va dire. On peut rentrer dans le détail si tu veux après. Et il reste 3 recours qui ont été posés par le collectif du testé qui seront rendus au mois de décembre. Et donc les recours, c'est est-ce que c'est un projet qui a un intérêt public ? Le 2e recours, c'est par rapport au déplacement des espèces protégées. Et le 3e recours, c'est par rapport à la loi sur l'eau, le fait de faire disparaître une zone humide. Il y a eu 2 recours par rapport aux espèces protégées, mais c'est mal parti, quoi.
D'accord, donc il y a ces procédures-là qui sont engagées. Par ailleurs, sur place, il y a eu, comme tu as dit, une accélération des travaux. Mmh. Et il y a aussi une certaine montée de la mobilisation des gens qui s'opposent à ce projet.
Il y a un truc qu'il faut aborder, c'est la démocratie, si tu veux. C'est parce qu'au départ, en fait, ils ont fait l'enquête publique que dans la zone. Alors que c'est un truc qui concerne tout le bassin de la Dour. Donc ils ont fait une enquête publique, donc ils n'ont interrogé finalement que les gens qui étaient concernés. Donc il y avait beaucoup de pour, évidemment. Après, il faut savoir que c'est un projet qui ne pourra pas être utile pour le tourisme, parce que c'est trop petit, ça va être une barre de boue.
Alors qu'il y avait déjà peut-être, on voit que sur place il y a une maison forestière.
Voilà, il y a des visites, la maison forestière fait des visites de la zone humide, donc c'était d'intérêt général pour toutes les écoles aux alentours. D'ailleurs il y a une agricultrice qui en parle. Et puis, en fait, il y a eu des discussions qui ont été engagées entre le collectif du testé et le Conseil Général, mais ils sont restés bloqués sur leur truc parce qu'eux, ils disaient qu'il devait y avoir un projet alternatif. Et le Conseil général, dans une interview à France Inter, a quand même dit, mais puisqu'on n'a pas pu poser un projet alternatif, on fait celui-là. Donc c'est grave ça, parce qu'il n'y a pas eu le temps au temps, il n'y a pas eu la discussion, il n'y a pas eu tout ça, quoi. Et en plus, ils passent en force, et en plus, ils sont violents. Donc, d'un point de vue de la démocratie, c'est un vrai problème là-bas. Ce qui saute aux yeux quand on va au tester, c'est la violence policière et le passage en force. C'est ça qui nous fait réagir, en fait. Et du coup, je pense que c'est normal qu'il y ait des gens qui n'aient plus envie de discuter.
Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale avant de revenir un petit peu sur qu'est-ce qui se passe concrètement sur la zone.
Ils ont répandu le sang un peu partout sur ton sort. T'aurais fait verre de ciment jusqu'à étouffer ton sort.
Te détruisent pour du papier.
On souffle des profondeurs. Pour nous faire croire en ton deuil, on ne portera pas ta tombe. Car on veut te voir vivre. Ils t'ont séquestré de leurs ombres. Nous on veut te voir libre. Tes enfants t'entendent crier au centre ta souffrance. Aujourd'hui sont prêts à se battre pour prendre ta défense. Les puissants te persécutent comme ils nous persécutent. Tombé dans la démence, c'est charmé par Belzébuth. Après t'avoir pillé, fragmenté, bombardé, vidé de tes substances, tes richesses ils ont gardé sans aucun respect, se sont appropriés ta chair. Depuis des millénaires pour t'avoir se font la guerre. Pacha mama, tes enfants sont toujours là, éparpillés sur le globe, le poing levé pour le combat. Pacha mama, c'est nos racines qui sont en toi. Tout notre amour sera plus fort que notre désarroi, Pachamama. Ton bas rempli à rapport, ils t'ont condamné à mort et nous ont condamné à mort. De toutes parts s'élèvent nos voix, allez leur dire d'avance que malgré leur mauvaise foi, terre mère n'est pas à vendre. Fatalité sublimée sous la flèche de Lucifer. Civilisation suicidaire. Les puissants se font la guerre pour te voler tes richesses. Sont mis à la vente et brevettes chacune de tes espèces. Terre mère, patrimoine ancestral de vie, considéré comme une vulgaire marchandise à leur service. Pachamama, on porte ta tristesse dans nos terres, exploité comme nous autres, ta détresse est dans nos êtres. Pachamama, tu es le reflet de nos cœurs, torturé et meurtri dans le siècle de l'horreur. Pachamama, ils ne voient pas ta souffrance, encore moins ton amour, ni le souffle d'une dernière chance à tous les enfants de la terre. Le mot d'ordre est délivrance. Allez leur dire que notre mère n'est pas à vendre. Que ton règne revienne, que tes enfants puissent t'aimer. Donne-nous aujourd'hui la force d'y croire. Pardonne-nous notre rage, qu'on se nourrisse d'espoir. Ne nous soumets pas au cynisme que l'homme moderne cultive. Livre-nous de la machine et de sa haine qui nous surine. Que ta force nous reprenne ses droits. Qu'on se rappelle que c'est toi qui reçois la vie sous la lumière des étoiles. Ils ont répandu le sang un peu partout sur ton sol. Ton recouvert de ciment jusqu'à étouffer ton sort. On t'empoisonnait ton air, souillait tes océans, tes rivières et tes mers. Et on vampirisait ton sang. Ils ont fracassé tes saisons. Régler ton climat, ils ont coupé l'horizon, avec du béton dégueulasse, ils ont exterminé ta faune, racheté ta flore, sous-estimé ta force pour nous condamner à mort. Pachamama.
C'était « Terre mère n'est pas à vendre » de Kenny Arcana. On aime bien, mais c'est pas très original. Et on voulait vous dire, si vous vous y connaissez en musique, si vous avez des super propositions et que vous avez envie de participer à l'équipe, à l'émission de Zoom Écologie. Faut pas hésiter à nous contacter. On est l'équipe des radioactifs et des radioactives. Et puis si vous avez envie de faire de la technique, hein, c'est pareil. Voilà, vous êtes sur FPP 106.3 avec l'équipe des radioactifs et des radioactives de Zoom Écologie. Et on continue. On continue cette émission sur le barrage de Sivens dans le Tarn avec Alain, Agnès et Dominique. On retourne à Foix où on a profité de la pause pour répondre au téléphone.
Donc on commence à avoir des coups de téléphone à propos d'apports de matériel qui doit converger donc sur la zone qui est pour l'instant encore occupée par des zadistes. Qu'est-ce qui se passe concrètement sur place en ce moment ?
C'est la guerre.
J'allais dire.
C'est de plus en plus violent, très violent. Vraiment, là, il y a eu une montée en puissance ces derniers jours de la violence. Il y a des appels au secours, il y a des zadistes qui disent qu'ils n'ont jamais subi une violence aussi forte de leur vie. Beaucoup de jeunes, hein.
Alors, qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Comment est-ce qu'ils sont arrivés là?
Ah, ça, c'est eux qu'il faut voir, mais...
Je pense qu'il y a plein de gens différents, en fait. Il y a des gens qui travaillent, des jeunes qui travaillent, donc qui vont travailler la journée, qui reviennent le soir. Il y a des gens qui sont au chômage, il y a des gens qui sont plutôt, on va dire, des nomades, qui vont de ZAD en ZAD pour défendre la planète. Après, il y a des gens comme nous qui viennent soutenir, plutôt de façon comme ça, de temps en temps, quoi. Il y a beaucoup de jeunes, mais pas que. Il y a quand même beaucoup, moi j'ai vu beaucoup de gens d'une trentaine d'années. Il y a toute l'équipe des grimpeurs là qui sont un petit peu des gens qui se regroupent, qui sont des zadistes et qui vont sur les zones et qui sont spécialisés et qui sont hyper utiles. Donc il y a une espèce de connexion comme ça avec des fortes individualités. Puis ils vont tous personnellement faire des choses. Mais sur un même sujet, donc finalement, il y a une espèce d'osmose qui se fait, c'est assez marrant, quoi.
À ce propos, parmi les zadistes, il y a beaucoup d'anciens de Notre-Dame-des-Landes, ou des gens qui viennent ici, qui retournent là-bas, etc. Et les zadistes sont représentés par le collectif Tant qu'il y aura des bouilles, qui, contrairement...
Tant qu'il y aura des bouilles.
Voilà.
Et c'est quoi les bouilles?
La bouille, c'est la zone humide. Hein,
la bouillonnante, hein, c'est un lieu dit là-bas, donc c'est les bouilles. C'est des zones humides. Donc c'est comme ça qu'ils se sont appelés. Et donc il y a le collectif du testé, effectivement, qui est plus institutionnel, plus juridique, plus dans les structures qui travaillent, qui montent des dossiers. Et puis il y a la résistance, donc la ZAD. ZAD, ça vient donc de l'idée qu'il y avait eu à Notre-Dame-des-Landes. Une ZAD au départ, c'est une zone d'aménagement différé et qui s'est transformée en zone à défendre. Voilà. Donc... Effectivement, moi, ce que j'ai vu là-bas, c'est beaucoup de tranches d'âge différentes quand même, très jeunes quand même, hein. La moyenne d'âge est plutôt vers les 25-28 ans, et puis des fortes motivations, une détermination étonnante. Quand on est en situation de violence quasi permanente depuis des semaines, avec des montées en puissance, le gazage, des flashballs, des coups, des... Et qu'on y est, qu'on y est encore et qu'on y est toujours, c'est vraiment des gens qui sont prêts à vraiment aller très très loin pour la défense de la planète, pour la défense des arbres, qui ont une sorte de lien intime et profond avec leur environnement. Quoi.
Bah, surtout que c'est... Alors voilà, ça tourne un petit peu aussi sur les lieux, mais c'est quand même une occupation qui a commencé depuis combien de temps ?
2 ans, je crois, maintenant.
Non,
un peu moins, mais on est dans cet ordre-là, 1 an et demi, je crois.
Ouais.
C'est après. Donc, au début, c'était donc une arrivée en soutien au travail du testé, hein, du collectif. Et puis dire, voilà, nous, on se pose là et on va protéger le site. Mmh. Et en fait, les choses se sont beaucoup accélérées à partir du début septembre, où là, il y a eu la décision de démarrer les travaux. Donc moi, j'étais sur place à ce moment-là. Il y a eu un premier lundi où sont arrivées les machines. Et où là, ils ont commencé à avoir confrontation directe avec les zadistes et des envois de lacrymogènes, des blessés. Et au départ, les machines étaient escortées, arrivées sur le site du lieu de dépôt, hein, donc à plusieurs kilomètres de là, aux alentours de Gaillac, et arrivées, escortées par une noria de véhicules de police les gardes mobiles, arriver sur le site le matin pour 9h, commencer le travail. Et ensuite, à 18h, tout le monde partait, à la fois les machines, les ouvriers et les gardes mobiles. Donc beaucoup de travaux, beaucoup d'actions se sont faites sur les parcours pour essayer de les empêcher d'arriver.
Mais parce qu'il faut voir que ce n'est pas des petites machines.
C'est des machines énormes qui vous prennent un arbre et qui le débitent en moins d'une minute. Hein, ils le prennent à la base, ils le coupent ou ils l'arrachent, il y a différents types de machines. Ils l'écorcent, ils les branchent, ils le coupent à longueur, ils le stockent. Et certaines arrachent et après derrière il y a des broyeuses qui arrivent, qui réduisent ça en copeaux, sauf la partie exploitable en bois d'usage.
Ils ont fait venir des bûcherons pour les gros chênes, parce qu'il y a du chêne là-bas. Et là, les bûcherons, ils coupent les gros arbres pour justement, je suppose, faire du bois d'œuvre. Enfin, ils les découpent correctement, quoi. Et là, chaque bûcheron est protégé par des flics, quoi. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Et il y a eu justement tout un truc de fait là-dessus, parce qu'on se demandait comment ces bûcherons, qui étaient tous visiblement d'origine étrangère, probablement du Maghreb, avaient été embauchés, dans quelles conditions, ils semblaient ne pas être protégés sur les chantiers, enfin ils travaillaient dans des conditions incroyables, quoi, dans les gaz lacrymogènes, ils n'avaient pas de masque, on ne sait pas combien ils sont payés, ils travaillent toute la journée, les pauses, on n'en a pas vu beaucoup. Et donc, vraiment une espèce de course en avant, il a fallu se dépêcher, quoi. Ils ont mis le paquet, quoi, vraiment.
Hein, donc, il y a eu des recours faits auprès de l'inspection du travail, qui demandait de venir. Et on a appris, parce que c'était au début, ça, en fait, c'était pas pour les prochaines, en fait. Pour permettre l'arrivée des machines. Donc, c'était couper toutes les petites cochonneries qui poussent en sous-bois, ce qu'on appelle les cochonneries, qui sont des mattes de noisetier, des petites mattes de frêne, qui empêche l'arrivée des grosses machines et qui donc ils ont commencé à couper.
Et sur la colline quand même, les arbres,
oui,
sur la colline.
Mais
aussi,
surtout les sous-bois, quoi, ah, bon. Dégagés. Et en fait, on a appris après que ces ouvriers, les trois quarts avaient posé malade dans les jours qui suivaient, donc soit par réel problème, soit par volonté d'arrêter de travailler comme ça, quoi. Donc ensuite sont arrivées les machines, justement. Avec donc l'idée de bloquer les machines le plus possible et de retarder leur arrivée. Ça a duré à peu près une semaine, 10 jours. Et ensuite, il y a eu le gros coup de blocage où on a réussi à les arrêter pendant presque une journée, avec des personnes qui se sont enterrées.
Et en fait, tous les dimanches, dès le dimanche soir, en fait, tous les voies d'accès, les collectivités et des bouilles organisent des barrages à toutes les voies d'accès pour ralentir l'arrivée des machines.
Et une cohésion des luttes, là, c'est-à-dire que le testé et les zadistes ont vraiment fait des réunions, des AG collectives, ce qui n'était pas toujours gagné avant, et ont mis au point cette stratégie, quoi, parce que ce qu'il fallait faire, c'est s'attaquer aux machines. Et le manque un petit peu de cohésion dans la ZAD, et puis le fait qu'entre le testé et la ZAD, c'était pas toujours facile, finalement, les machines n'ont jamais été arrêtées, quoi. Et ça, c'est peut-être un petit peu ce qui a pêché dans l'histoire.
Mais ça s'est quand même fait quelques fois.
Elles n'ont jamais été détruites, les machines. Alors que je pense que c'est ça qu'il fallait faire, il fallait les détruire, c'est facile à dire. Mais,
mais cela dit, vu l'importance du dispositif policier, ouais. Je ne vois pas comment on peut accéder aux machines, quoi, et faire une action pour les détruire, parce qu'ils sont tellement nombreux, et puis la distance est suffisamment grande pour pas qu'on puisse les
approcher.
Les approcher, justement.
Oui, là, vraiment, c'était l'opération militaire, quoi. Vraiment, on protège, on se sentait en situation de, pas de guerre, mais parce qu'il n'y a quand même pas de tir à balles réelles, mais tir tendu quand même, hein, beaucoup de blessés avec
les flashballs,
les gaz moutarde, hein, et quand on était au contact, moi j'y suis allé plusieurs fois, on revient de là, on a pris sa bonne dose de gaz, on a pris des nions, et ils ont réussi à avancer quand même. Donc je disais, il y a un moment où il y a eu une action à la fois symbolique et très, très efficace, hein, c'est 6 personnes s'étaient enterrées, hein, presque au niveau des épaules, donc les bras enterrés aussi, en situation de totale vulnérabilité, pour empêcher les engins de passer. Donc les gardes mobiles, quand ils sont arrivés, se sont trouvés quand même en situation un peu particulière. Donc ça a duré jusqu'à...
Et
16h à peu près. Donc il y avait un gros orage. Donc ils ont attendu à la fois la fin de l'orage qui permettait de regazer, parce que tant qu'il y avait l'orage, les plus diluviennes, les gaz lacrymogènes étaient totalement inefficaces. Et ils ont dû le départ de la dernière caméra de télé. Et là, ils ont chargé d'une manière extrêmement violente. Ils sont arrivés en masse là où étaient les copains enterrés. Il y a eu d'ailleurs une fille qui a fini à l'hôpital parce qu'elle s'est retrouvée enterrée sous les. Elle s'est retrouvée. L'échafaudage qu'ils avaient mis en place dans la terre s'est écroulé. Donc, voilà. Et puis ensuite, ça a été la vraie charge. Donc une résistance zadiste importante, mais évidemment, les forces de l'ordre en face sont équipées, sont aguerries et sont armées. Donc, et là, on a été poussé en dehors, de l'autre côté du Tesco. Et à partir de là, ça a changé d'allure dans le sens où les machines sont restées là. Donc les machines restaient là, donc il n'y avait plus la possibilité de les bloquer sur la route.
Je rappelle, tu parlais de violence tout à l'heure, je crois qu'ils ont atteint, enfin les gendarmes mobiles ont atteint leur point culminant de la violence en début de semaine, où ils ont forcé l'un des barrages avec des voitures particulières, des gens du TST ou autres, ou des gens avec un tractobule. Et ensuite, Agnès parlait de Gaza, c'était un dernier petit camp, mais qui est en fait hors ZAD, hein, qui est juste à côté. Ils ont tout cramé, ils ont détruit du matériel, plus les blessés, etc.
Agnès était dans les médics. Hein, dans le,
voilà, donc Agnès, toi, tu t'es un petit peu occupée des soins.
Oui, j'ai un peu de mal à aller sur les territoires de guerre. C'est très violent, c'est extrêmement violent, ça me fait vraiment peur. Et donc, je me suis plutôt sentie utile à aider, en fait, la medic team, comme ils appellent ça. Donc, ils sont un petit peu organisés quand même là-bas. Hein, et il y a ce qu'on appelle une medic team. C'est des gens vachement courageux, ils sont en permanence sur la zone et dès que quelqu'un est blessé ou est en difficulté, donc ils vont l'aider. Bon, ils ont du sérum FIV, enfin voilà, il y a tout un truc qui se met en place. Et quand j'y suis allée, moi, on a décidé de faire un poste fixe, en fait, comme une espèce d'hôpital de brousse. Et donc, du coup, c'était un lieu où les gens pouvaient venir se reposer, se faire soigner. Et reprendre une respiration avant de retourner, je dirais, au combat, parce que c'était ça. Moi, j'ai vu des mecs qui étaient blessés avec des flashballs, avec des hématomes quand même assez conséquents, qui me demandaient de les soigner et qui repartaient tout de suite, quoi. Enfin, c'était vraiment hallucinant. On avait beau leur dire, mais attends, là, il faut que tu te reposes un peu, il faut que tu te fasses encore soigner, ils retournaient directement, quoi, parce qu'ils ne sont pas assez, parce que voilà, ils sont dans un état de... Là, ça monte en tension, je veux dire, de tension, et ils peuvent pas rester tranquilles, il faut qu'ils y aillent, quoi. C'est impossible de faire autrement. Donc là, il y a vraiment une belle organisation, et après, cet hôpital, en fait, il a été encerclé, et du coup, on a perdu tout le matériel, quoi.
Et donc là, il y a aussi un appel, donc outre la mobilisation, la journée de mobilisation nationale du 25 octobre, et l'appel à reconstruction de la ZAD dans la semaine qui suit. Il y a aussi un appel à matériel de ce côté-là, c'est ça ?
Matériel, et puis peut-être aussi des gens qui seraient un petit peu des soignants aussi. Je pense qu'avoir un médecin sur la zone, ça serait pas mal, quoi. Parce qu'il y a quand même... Bon, à mon avis, là, vu les tensions, il y a déjà des blessures assez graves qui ont pas mal tourné jusqu'ici, mais enfin, il y a quand même eu quelques hospitalisations. Il peut y avoir des choses graves. Il y a quand même des gaz, il y a quand même des choses comme ça, et on n'est pas à l'abri d'une allergie ou d'un choc ou sur la zone. Et là, les pompiers mettent 2 heures pour arriver, quoi. Et c'est un encerclement, hein. En plus, visiblement, moi, je ne l'ai pas vu, mais visiblement, ils font tout pour empêcher le secours d'arriver correctement, quoi. Donc, ça, c'est gravissime.
Oui, donc, appel à soutien, effectivement, pour le 25, mais déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, hier, avant-hier, ils ont subi des attaques fortes. Donc, il n'y a pas besoin uniquement d'être des combattants pour y aller. Hein. Il y a d'autres soutiens qui peuvent être apportés, logistique, des soutiens au niveau des structures politiques, le conseil général, aller un peu les secouer, la préfecture. Donc, toute personne qui a envie...
Voilà, parce que quand il y a du monde, on a déjà vu donc, des actions qui ont été menées au sein du Conseil Général. Il y a aussi des lycées qui se sont mis en grève. Voilà. Ouais. Donc, quand il y a du renfort, il y a toujours des actions à faire.
Il y a toujours des choses à faire, que ce soit logistique ou alors ceux qui veulent être directement en opposition avec l'avancée des forces de l'ordre peuvent y être. Bien évidemment, il y a besoin de monde aussi là. mais il y a besoin de soignants, il y a besoin de donner à manger, il y a besoin de faire à manger, il y a besoin de pas mal de choses. Et donc, dès aujourd'hui, ceux qui veulent y aller, hein, il y a un covoiturage qui est organisé samedi en Ariège. Il faut vraiment qu'on y aille régulièrement.
À Paris aussi, il y a le collectif Notre-Dame-des-Landes qui est en train de se mobiliser contre ce projet. Mmh. Donc, il va très certainement s'organiser des départs pour le 25 aussi.
Mmh. Voilà, le 25, vraiment, il faut y être très, très, très nombreux. Souvenons-nous, Notre-Dame-des-Landes, 40 000 personnes après l'expulsion, et 40 000 personnes dans l'idée de reconstruire. Ça a été un point de bascule dans la lutte. Ce point de bascule, il le faut à Sivens, il le faut. Il faut qu'à un moment donné, les autorités locales et la préfecture se rendent compte qu'il y a un énorme soutien. Il faut qu'on puisse reconstruire. Nous, ici, on essaie de faire une cabane en kit et l'amener là-bas. Il faut qu'on revienne là-bas avec du matériel, une détermination, qu'on reconstruise. Donc, il y a le 25, c'est une journée de manifestation nationale sur le site. Et il y a une semaine de reconstruction derrière. Donc tous ceux qui peuvent rester plus longtemps, il faut qu'ils viennent avec l'idée de « on va refaire des cabanes, on va refaire des lieux » pour à la fois poser le fait qu'on y est, qu'on y reste, et puis avoir des hébergements, parce que la mauvaise saison approche, si ça devait s'inscrire dans le temps.
Parce que à quoi on peut s'attendre là, du point de vue des travaux, maintenant que le déboisement est terminé? Est-ce qu'on sait un petit peu quelles sont les prochaines échéances?
Là, ce qu'ils ont commencé, je crois, cette semaine, je crois hier, c'est le décapage sur, ça représente je crois un hectare, plus ou moins un hectare de terrain, juste en amont de la digue.
Après, c'est quoi le décapage?
Le décapage, c'est en fait, c'est enlever toute
la
terre arable.
C'est des opérations irréversibles aussi d'un point de vue environnemental.
Là, justement, on va décaper, donc là, ça sera irréversible, ça c'est clair. Avant, c'était encore possible de replanter ou de laisser la nature refaire, mais après le décapage, là, c'est plus possible.
Et dès novembre, ils commencent à injecter du béton, parce qu'en fait, la couche d'argile qui est sous la retenue d'eau est très poreuse. Alors si on fait une retenue d'eau, puis tout se barre. Donc ils ont commencé ça au mois de novembre. Il devrait y avoir une interruption pendant l'hiver pour reprendre au mois de janvier.
Parce qu'en fait, il y a des études qui sont faites, mais il y a des tas de barrages dans le monde qui ont échoué. On ne sait jamais vraiment, on ne sait pas comment ont été faites des études de sol et tout, on ne sait pas comment ce barrage finalement va se remplir. Hein. Est-ce qu'il sera vraiment étanche? Il y a plein de points d'interrogation. Il va coûter très cher parce que la zone...
Ça, c'est sûr.
Il va coûter très cher, mais en plus, il va coûter cher parce qu'en fait, la zone n'est pas tout à fait adaptée pour faire un barrage. Donc, on se marche sur la tête.
Au lieu de se dire, on attend, on revisite tout ça, non. On emmène un grand renfort de pognon parce que la présence de 300, 400 gardes mobiles depuis déjà maintenant presque un mois et encore pour quelques temps, ça coûte une fortune. Ça coûte une fortune. Ces gens-là, ils ne se déplacent pas, ils sont payés, ils sont hébergés localement. Donc voilà, tout ce truc-là, sur une volonté d'un politique qui veut vraiment un peu comme on a eu Notre-Dame-des-Landes, hein, avec...
Carsenac.
Oui. Carsenac et héros Notre-Dame-des-Landes.
Voilà, des gens qui ont un petit bébé qui va le mettre, hein, qui leur permettra de présenter au sénatorial, qui va caresser dans le sens du poil les agriculteurs locaux, qui va satisfaire les copains. On retombe toujours dans ce genre de projet, et tout ça au détriment du bien commun et dans des situations d'irréversibilité totale. C'est-à-dire, on ne peut pas revenir en arrière. C'est foutu.
C'est une logique de fric en fait. C'est appeler de l'argent. Pour faire fonctionner un truc, pour faire fonctionner le conseil général, pour créer soi-disant de l'emploi, ce qui va créer très très peu d'emplois, et pour quelque chose qui au niveau fonctionnement, on n'est pas très sûr. En échangeant tout à l'heure, on disait il va mettre 2 ans pour se remplir. J'espère qu'il va se remplir, mais pendant 2 ans, de toute manière, là, ils vont tout détruire puisqu'il n'y aura plus d'eau. Et puis, toutes les mesures compensatoires, je ne vois vraiment pas, par rapport à la zone humide, comment elles vont se mettre en place. Donc je comprends les zadistes qui sont en colère, quoi. Ils sont vraiment en colère parce que c'est 40 hectares, mais c'est énorme, en fait, dans cette espèce de vision qu'on a de l'avenir, alors qu'on sait que la Terre, là, elle commence vraiment à être exsangue. On ne peut plus accepter ça. On ne peut plus vraiment accepter ça, quoi.
D'autant que des projets de barrage, il y en aura d'autres. Hein. Évidemment que c'est un barrage. Mais bientôt, il y en aura un, pas loin de chez nous.
Il y en a plusieurs qui sont dans les tiroirs.
Voilà. Oui, il y en a beaucoup dans les tiroirs. Ici, on essaie de faire une cabane en kit et l'amener là-bas. C'est pas uniquement pas là-bas, c'est pas chez nous non plus. Donc soutenir le testé, soutenir la lutte contre le barrage de Siemens, c'est vraiment préfigure les luttes qu'on va devoir mener bientôt chez nous. Parce que dans le sud-ouest, avec la prolifération de la maïsiculture et les problèmes climatiques, il va y avoir évidemment des gros problèmes d'eau. Et évidemment, puisque c'est le plus gros consommateur d'eau, c'est les maïsiculteurs.
Donc, si, et ils n'en auront jamais assez.
Jamais assez. Donc de toute façon, on sait que bientôt, en Ariège, dans le Gers, partout, il va y avoir des projets de ce genre qui sont des projets inacceptables. C'est encore un modèle d'agriculture qu'on ne peut pas cautionner ni accepter.
Moi, je veux bien revenir sur l'histoire de aider la ZAD. Je pense que les groupes locaux, maintenant, faut qu'ils rentrent dans une autonomie, c'est-à-dire que localement, dans tous les départements qui peuvent bouger là-dessus, il faut une autonomie, une autogestion. C'est-à-dire que c'est là-bas, c'est comme ça qu'ils fonctionnent là-bas, en autogestion, en autonomie. Il faut que les groupes locaux aient des idées, y aillent. C'est pas la peine de se demander est-ce qu'on peut y aller, est-ce qu'on peut pas y aller, comment on y va, etc. Il faut que monter des projets, y aller, s'organiser. Et de toute manière, il faut du monde là-bas. Donc c'est pas la peine de se poser 36 questions. Il faut être autonome par rapport à ça, parce qu'il y a eu toute cette demande. Mais de quoi ils ont besoin? Mais comment on fait pour y aller, etc. Il faut y aller. C'est tout. Il faut y aller. Voilà. Organiser des bus. Il faut y aller tout le temps. De toute manière, voilà.
Et quelle que soit l'issue de cette lutte, après Notre-Dame-des-Landes, après Bure pour l'enfouissement des déchets nucléaires, après les 1000 vaches, ça démontre que les citoyens sont capables de se mobiliser sur certains projets inutiles et dispendieux, et que maintenant ils ne peuvent plus faire passer des projets comme ça, comme une lettre à la poste, même un barrage qui couvre que 40 hectares. Quoi.
Parce que en fait, les gardes mobiles qui sont là-bas, c'est pas le conseil général qui les envoie, c'est Valls. Et c'est quoi aujourd'hui le testé? En fait, c'est une guerre de société, c'est-à-dire c'est des gens qui veulent arrêter ce qui se passe aujourd'hui, qui veulent un changement sociétal, de notre rapport à la nature et tout ça, face à quelque chose qui est beaucoup plus dans la logique libérale et tout. Enfin là, on est vraiment dans une vraie guerre, quoi, une vraie guerre. Et moi, ce que je dirais, ce qui manque dans tous ces mouvements et tout, c'est une vraie réflexion sur la non-violence. C'est-à-dire que là, on rentre dans quelque chose de violent. Et finalement, je trouve que les mouvements citoyens on a envie d'être violent, forcément. À un moment donné, on a envie de passer à la violence, enfin en tout cas casser du matériel, mais on n'a pas de réponse globale, importante, non violente. Et moi, ça me désespère, en fait. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire vraiment, quoi? Comment on peut vraiment s'organiser pour rester non violent et les faire arrêter, quoi?
Ok, ben merci beaucoup. Et puis donc, on se retrouve tous sur la ZAD très bientôt, et au pire, le 25 octobre.
Merci. Merci la radio de Paris.
Merci.
Bonne soirée.
Au revoir.
FPP 106.3, la radio de Paris. Merci Alain, Agnès, Dominique, deux fois. Pour suivre l'actualité au Testet, vous pouvez regarder le site « Tant qu'il y aura des bouilles, il n'y aura pas de barrage » et le site du collectif du Testet. Et puis vous pouvez regarder notre site zoomecologie.net où il y aura bientôt cette émission en ligne. Et on continue avec Kenny Arcana, 5e soleil. Ciao, à bientôt, à Sivens.
Mon esprit s'égare. L'esprit qui surchauffe, les gens se détestent, la guerre des égaux, 21e siècle, cynisme et mépris, non-respect de la terre, folie plein les tripes, frontières, barricades, émeutes et matraques, cris et bains de sang, bombes qui éclatent, politique de la peur, science immorale, insurrection d'un peuple, marché des armes, nouvel ordre mondial, fusion de terreur, l'homme, l'animal, le plus prédateur, le système plus la mort, assassin de la vie, a tué la mémoire pour mieux tuer la l'avenir, des disquettes plein la tête, l'essence nous trompe. Troisième, œil ouvert, car le cerveau nous ment. L'être humain s'est perdu, a oublié sa force, a oublié la lune, le soleil et la tombe. Inversion des pôles, vers la haine se dirige. A perdu la raison pour une excuse qui divise. L'égoïsme en devise, époque misérable, haine collective contre rage viscérale. Une humeur dans le cœur, une larme dans l'œil, une prière dans la tête, une vieille douleur, une vive rancœur. Là où meurt le pardon, ni même la foi prend peur. Allez viens, nous partons, des lois faites pour le peuple. Et les rois tyrannisent, confréries et business en haut de la pyramide. Ta son souris le sang entre char et usine. Innocent dans un ciel aux couleurs des usines. Un silence de deuil, une balle perdue, toute une famille en pleurs, un enfant abattu. Des milices de l'État, des paramilitaires, des folies cérébrales, des peuples entiers à terre. Bidonville de misère à l'entrée des palaces. Liberté volée, synonyme de paperasse. Humanité troquée contre une vie illusoire. Entre stress du matin et angoisse du soir. Des névroses plein la tête, les nerfs rompus. Caractérise l'homme moderne, bien souvent corrompu. Et quand la vie s'endort, arrive tant de fois. Une mort silencieuse, un SDF dans le froid. Prison de ciment, derrière les œillères. Le combat est si long pour un peu de lumière. Les familles se déchirent et les pères se font rares. Les enfants ne rient plus, se baptisent des remparts. Les mères prennent sur elles un jeune sur trois en tôle. Qui sait, merde est réelle, donc on battra encore. C'est la malade les bras qui nous bouffe les tripes. Une bouteille de vodka, quelques grammes de weed. Certains ne reviennent pas, le serrage est violent. Du butex injecté dans une plaque de sang. Des enfants qui se battent, un coup de couteau en trop. C'est plus à la baraque que les membres rentrent tôt. Ils apprennent la ruse dans un verre de colère. Formatage de la rue, formatage scolaire. C'est chacun sa disquette quand les mondes se rencontrent. C'est le choc des cultures, voir la haine de la honte. Les barrières sont là, dans nos têtes, bien au chaud. Les plus durs craquent vite, c'est la loi du roseau. Non, rien n'est transitible. La grisaille demeure dans les cœurs meurtris. Qui a peu, si peu meurt, ne pleure, reprends ma sœur. Car tu portes le monde, noble est ton cœur. Prends-toi et remonte, n'écoute pas les bâtards qui voudraient te voir triste. Même terre mère est malade, mais terre mère résiste. Seul déconstruit son monde, apprenti créateur. Qui a tout déréglé, sanguinaire prédateur. Babylone est bien grande, mais n'est rien dans le fond qu'une vulgaire mascarade au parfum d'illusion. Maîtresse de nos esprits, crédules et naïfs, conditionne en massif. Là où les nerfs sont à vivre, dans la marche et la rage, bastion des galériens. Ensemble nous sommes le monde et le système n'est rien. Prends conscience mon frère, reste près de ton cœur. Méfie-toi du système, assassin et menteur. Éloigne-toi de la haine qui nous saute tous au bras. Humanité humaine, seul amour nous sauvera. Écoute le silence quand ton âme est en paix. La lumière s'y trouve, la lumière est rentrée. Vérité en nous-mêmes, fruit de la création. N'oublie pas ton histoire, n'oublie pas ta mission. Dernière génération à pouvoir tout changer. La vie est avec nous, n'aie pas peur du danger. Alors levons nos voix pour ne plus oublier. Bout de poussière d'étoiles, qu'attends-tu pour briller? Tous frères et sœurs, reformons la chaîne. Car nous ne sommes qu'un, divisés dans la chair. Retrouvons la joie, l'entraide qu'on s'élève. Une lueur suffit à faire fondre les ténèbres. Ses souffles se sent, une odeur de soufre. La faim se ressent, la bête en voûte. La foule, les symboles s'inversent, se confondent les obsèques. L'étoile qui fait tourner la roue se rapproche de notre ciel. Terre à l'agonie, mal-être à l'honneur. Folie, calomnie, le cœur à la bonheur. Ignorance du bonheur, de la magie de la vie. Choqué par l'horreur, formé à la survie. L'époque, le pire, une part des conséquences. Le bien, le mal aujourd'hui, choisis ton camp. L'être humain s'est perdu, concentré sur la voie. Les étoiles se concertent pour nous ramener sur la voie. Quadrillage ficelé, mais passe la lumière. Et confiance en la vie, en la force de tes rêves. Tout un ange à l'épaule, présent si tu le cherches. Quand le cœur ne fait qu'un, avec l'esprit et le geste. Le grand jour se prépare, ne vois-tu pas les signes? La mort n'existe pas, c'est juste la fin des cycles. Cette fin se dessine, l'humain se décime. Espoir indigo, les pléiades nous désignent. Lève sa tête et comprends, ressens la force entre l'être. Des bases Babylone, et utilise le mystère. Rien ne se tire au sort, que le ciel te bénisse. Enfant du quinto sol, comprends entre les lignes. Comprends entre les lignes. Enfant du quinto sol, le soleil est en toi. Fais briller ta lumière intérieure pour éclairer le chaos de leur monde. Car on n'est pas là par hasard. Les pléiades nous désignent. Comprends entre les lignes. Les grands, le cœur. Les obéissants, car la vérité est en nous. Car la solution est en nous. Parce que la vie est en nous.
ZAD, yeah. Ça vit ici, ça fleurit ici, ça bâtit ici et ça chie ici. Tu veux leur faire quitter leur bocage? Oublie tes profits, Vinci, dégage. Premier acte d'expulsion, 16 octobre 2012. Déploiement massif, des forces de répression. Plus de 100 000 pantins vont patauger dans la bouse. Y'a même un hélico pour gérer la situation. Alors t'allumes ta télé pour voir les news. C'est la guerre ou quoi? Mais où passe mon pognon? En fait, c'est juste pour déloger squatteurs et paysans. Étouffer la terre avec des hectares de ciment. Ces gens n'ont pas le droit de cultiver. L'État veut construire un aéroport géant. Face à une telle aberration, résistants militants tiennent bon. Légumes contre lacrymo. Hey, et adieu le sabot. Grenade contre cabane. Et adieu la forêt de Roanne. Des adieux, jamais personne ne veut lâcher. Ça vit ici, ça fleurit ici, ça bâtit ici et ça chie ici. Tu veux leur faire quitter leur bocage? Oublie tes profits, Vinci, dégage. Ça vit ici, ça fleurit ici, ça bâtit ici et ça chie ici. Tu veux leur faire quitter leur bocage? Oublie tes profits, Vinci, dégage. Ils pourront bien casser, raser, incendier, expulser. La détermination fera tout repousser. Telle s'enchaîne, sortie de terre. La gaieté c'est nous qui l'avons, pas les militaires. Face à César et sa horde, les irréductibles résistent. Nous sommes des terroristes, comme tu dis aux journalistes. Mais qui détruit les maisons, les légumes, les habitations? La Vernero, Vinci, gros con. Les terroristes sont plutôt au Parti Socialiste. On continue à bâtir des barricades pour défendre la ZAD, tous unis, tous camarades, face à leur honteuse brigade. Manitou et Pelleteuse viennent saccager ce lieu, mais sur leur passage ils trouveront toujours des planchettes et des pneus. On lâche rien et on est nombreux. Un soutien massif pour cette zone vive, cette zone à défendre, cette zone autonome, définitive, définitive. Ça vit ici, ça fleurit ici, ça bâtit ici et ça chie ici. Tu veux leur faire quitter leur bocage? Oublie tes profits, Vinci, dégage. Ça vit ici, ça fleurit ici, ça bâtit ici et ça chie ici. Tu veux leur faire quitter leur bocage? Oublie tes profits, Vinci, dégage. On lâche rien et on est nombreux. Un soutien massif pour cette zone vive, cette zone à défendre, cette zone autonome, définitive.
Pour la ZAD, Notre-Dame-des-Landes. Eh ouais.
Les tritons crêtés contre le béton armé. ZAD.nadir.org.
ZAD.nadir.org.
Tous ensemble, vaincons Vinci.
Vinci dégage, Vinci dégage, Vinci dégage.
Vaincons Vinci.